On avait posé une question la dernière fois, mais qui n'est pas là. Qui m'avait posé une question la dernière fois à la fin du cours? C'était ce côté-là.
C'était la bracha des mains croisées.
Ah, ça c'est toi?
Non, c'est pas toi.
Non, c'était encore une autre.
Ah, c'est une autre.
Bon, je vais répondre à ça rapidement, puis nous allons prendre main.
Pourquoi les
Bnei
Israël ne sont pas partis tout de suite?
Très bien, exact. C'est vous que vous avez?
Non,
c'est quelqu'un là-bas.
La même personne. La même personne.
C'est-à-dire?
C'est la même personne.
Elle a posé la question deux fois.
Carole,
Nahum, Rosenthal. Il y a pas.
Bon.
Bon, alors, ça y est, je me rappelle. Nous allons répondre à ces deux questions. D'abord celle-là. Parce que la deuxième nous amène à la paracha de la semaine. Alors vous m'excusez, je vais vraiment parler lentement, mais je vais essayer de parler lentement. Donc si j'avais compris, Carole ne s'est pas manifestée parce qu'elle est à la manifestation. Ça doit être ça. Bien, écoutez, c'est un thème important. Vous voulez, tu veux fermer? C'est un thème important que nous avons dans l'histoire de la famille des patriarches, mais qui se continue dans la suite de l'histoire d'Israël. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de thèmes d'identité que la Torah explique assez en détail à certains niveaux de la famille des patriarches, en particulier le problème de... C'est un mot que chaque fois je cherche en français, mais je crois qu'il n'existe pas. Les mères d'Israël tardent à enfanter. Je sais que dans les traductions, on dit qu'elles sont stériles longtemps, mais ce n'est pas le mot exact, puisque finalement, elles enfantent, c'est qu'elles n'étaient pas stériles. Mais il y a un empêchement à enfanter jusqu'à ce qu'il soit assuré, pour des critères propres à la Torah, que l'enfant qui sera né sera, comment dire, on parle français, c'est difficile de traduire de l'hébreu, sera matim, compatible à ce qui est attendu, et ne soit pas une approximation, ce qui est une catastrophe. Parce que lorsque dans l'histoire apparaît une approximation d'un certain projet, elle est là. Tout ce que Dieu crée ou laisse exister est irréversible. Lorsque l'approximation apparaît, c'est vraiment une catastrophe, elle est là, il faut en tenir compte. C'est un thème très important et que la Torah explique. Si Dieu a laissé exister quelque chose, lui sait pourquoi. Et par conséquent, il faut en tenir compte quoi qu'il en soit. Alors nous sommes dans un monde encombré de déchets, d'échecs du passé, mais puisque ça a existé, ça existe. Il y a des leçons de morale pratique à tirer de cela, mais chacun le comprend à son échelle et par rapport à son expérience et aux problèmes qu'il a à résoudre. Il ne faut pas tirer de conclusions généralisées. D'ailleurs, ce sont des thèmes, on ne peut pas avoir de règles générales. Chaque cas est un cas particulier, mais le principe qui est indiqué là est très important. Ce qui existe, existe. Étant donné que, en tout cas dans la cohérence de la perspective de ce qu'enseigne la Torah, ce qu'enseigne la Bible, ce monde est le monde d'un créateur, il sait comment il gère son monde. Et donc, même si nous ne comprenons pas, il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons jamais, pas parce qu'on ne peut pas comprendre, mais parce qu'il ne faut pas comprendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et ce qui existe, existe, donc il faut en tenir compte. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas lutter contre le mal quand le mal existe. Mais c'est un thème un peu différent. Il y a des approximations de la vérité qui encombrent le monde de la vérité. Et on pourrait parler beaucoup de ce thème, mais c'est un peu le cas. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Pour vous parler de ce retard de l'enfantement dans la famille des patriarches. Pourquoi Sarah tarde tellement d'enfanter? Parce qu'elle doit enfanter Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire « il rira ». Elle doit enfanter un fils de l'homme qui ne sera satisfait du monde que lorsque le monde méritera qu'on en soit satisfait. Il rira dans l'avenir. Et le risque d'une approximation, c'est précisément un enfant d'Abraham qui rirait au présent. Ceux qui ont déjà étudié la différence entre Ishmaël et Israël elles savent que la Torah dit d'Ishmaël qu'il riait au présent. L'approximation d'Isaac, c'est Ishmaël, dans les termes de la Torah. C'est pas du tout intentionnellement que j'ai choisi un thème d'actualité. C'est un thème permanent depuis 4000 ans. Et grâce à Dieu, nous savons que ça ne va pas durer longtemps. Mais enfin, on y est encore. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer de quoi il s'agit. Vous voyez qu'il faut lire le récit de la Torah en hébreu. Lorsque Sarah intervient pour demander à Abraham de chasser Agar et Ishmaël, en termes de politique israélienne contemporaine, ça s'appelle transfert. Vous n'avez entendu parler du transfert. Chaque fois que j'arrive en transfert à Zurich, que je vois transfert, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, comment on dit en français, j'ai oublié. Quoi?
Transit.
C'est en anglais, non? Et alors, j'ai lu avant-hier un article qui disait que le transfert des Arabes, c'est interdit. Le transfert des Juifs, c'est cachère. Vous avez remarqué ça? Moi? Qui a dit ça? Le gouvernement israélien. Alors, en tout cas, on revient à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Lorsque Sarah intervient pour demander à Abraham de renvoyer Shaléach, c'est-à-dire divorcer, renvoyer Agar et le fils de Agar, qui est donc Ishmaël, la motivation qu'il donne, c'est qu'il riait. Vatere, Sarah, et Ben Agar Amitrit, Asherial Dale Abraham, Metzachek. Il riait au présent. Alors elle dit, Garesh et Ama et Bena, Kilo Irash et Ben Ama, Imbeni, Imitzrak. Et ces deux mots qui sont à la fin de deux versets qui se suivent. Elle a vu le fils de Agar l'Égyptienne, que Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham, riant au présent. Et elle dit, renvoie. La servante et Agar, ta servante, et le fils de la servante, car il n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Si on compare les deux mots, Metzachek, rire au présent, et Yitzhak, rire au futur, alors on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus important que simplement le fait que Ishmaël se moquait d'Isaac. Vous rappelez ce que dit le Midrash. Lorsque Isaac est né, Abraham a fait un festin, Beyom Igamel Yitzhak, le jour où il a été sevré. Comme ça qu'on dit en français, le jour où Yitzhak peut se nourrir par lui-même, devenir autonome, Yom Igamel, ça veut dire qu'il est déjà, il existe par lui-même, il n'est plus rattaché à l'allaitement de sa mère, Abraham a fait un grand festin. C'est la vraie naissance, si je veux dire. Non, je dirais une deuxième naissance. C'est un thème qu'il y a d'ailleurs dans le Talmud, l'allaitement, c'est l'achèvement de la vie intra-utérine, mais un achèvement extra-utérin. C'est clair le mot que j'emploie. Parce qu'il y a des organes de l'embryon qui ne peuvent pas encore supporter directement le nourrissement par le lait de la mère. Vous savez que le sang, c'est une transformation... l'inverse. Le lait, c'est une transformation du sang de la mère. Vous savez cela, hein? Bon, donc c'est ce thème-là. En réalité, nous avons 12 mois. Nous devrions avoir 12 mois d'embryon. Je vous cite l'enseignement du Talmud. Mais il y en a 9 intra-utérins et 3 extra-utérins. Avec le temps de l'évolution de l'histoire, cet allaitement extra-utérin dure plus longtemps que 3 mois. Mais nous avons les chiffres, je ne veux pas dire symboliques, ce n'est pas le mot, mais les chiffres exacts selon la Torah. Et donc le jour où Yitzhak est déjà sevré, c'est sa vraie naissance. Et ce jour-là, Abraham fait un festin. Ishmaël était déjà âgé de 13 ans. Vous vous rappelez, de plus de 13 ans, puisqu'il avait 13 ans quand Isaac est né. Et lorsque, là je vous cite un midrash qui est très connu, pendant ce festin, Ishmaël riait de Isaac. Et le midrash nous a laissé le contenu de ce rire en disant, c'est un rire de dérision, il croit... C'est Ishmaël qui parle de Isaac. Il croit qu'il héritera d'Abraham, mais c'est moi l'aîné. Regardez que ce thème-là, on n'en a pas fini avec. Okay? Et d'ailleurs, le Midrash cite, c'est moi l'aîné d'Ishmaël et j'hériterai de deux parts. Vous savez que l'aîné, d'après la Torah, hérite de deux parts d'héritage. Alors Ishmaël hérite de deux parts, l'Arabie et la Palestine. Vous avez remarqué ça? Et alors, comme quoi je dis ça, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On va bientôt en grincer les dents. mais parce que c'est pour indiquer que nous vivons l'histoire des patriarches. Donc nous connaissons la suite, nous connaissons la fin. C'est Israël qui arrive triomphant. Mais à quel prix ? Ça dépend du mérite, et ça dépend, disons, de la responsabilité des Juifs. Les Juifs sont un peuple irresponsable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Bon, je reviens au sujet. Vous voyez que Yitzhak apparaît dans le texte comme un enfant promis, mais qui tarde à être enfanté, engendré, parce que si on enfante précipitamment une approximation, une catastrophe, ce serait Ishmaël. Vous voyez, je veux dire, moi je suis né dans un pays d'islam, donc j'ai beaucoup de familiarité avec l'identité d'Ishmaël, et je sais par expérience que les Européens n'y comprennent rien, mais alors rien du tout. Il y a parmi vous des Ashkenazim et des Sfaradim. Je peux vous dire que les Ashkenazim et les Sfaradim de culture européenne ne comprennent rien à ce que c'est qu'Ishmaël. Il faut avoir vécu chez eux et être né chez eux pour savoir ce que c'est. C'est une autre manière d'être homme qui n'a rien à voir avec l'européen, avec l'occidental, c'est autre chose. J'ai fait mon service militaire indépendamment des Arabes, chez qui je suis né. J'ai fait mon service, et encore sous domination française, c'est pourquoi je suis vivant d'ailleurs, parce que la police était française. Mais les Algériens se rappellent de quoi il s'agit. Mais vous savez, il y a des légendes de mariage idyllique judéo-arabe. Lisez Albert Memmi, qui n'est pas suspect de racisme anti-arabe. Lisez bien Albert Memmi, juif et arabe, un de ses premiers livres, et où il dénonce ce cliché, cette légende de la coexistence idyllique entre juifs et arabes en Afrique. Il lui était tunisien, mais s'il avait été marocain, ça aurait été 100 fois pire. Les Tunisiens encore, même les Arabes sont très gentils, les Tunisiens, quand ils sont gentils. Mais les Arabes marocains, Dieu préserve, quand ils sont méchants. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, j'ai fait mon service dans le... Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bon, il doit y avoir une raison. Ishmaël, oui, non, je ne parle pas des Arabes, mais je veux dire autre chose. Il faut savoir qu'il y a différentes manières d'être homme. J'étais mobilisé à la Légion étrangère. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, non ? Je suis un ancien légionnaire, vous ne savez pas ça. Parce que, comme ça, c'est la grande blague quand je raconte ça. Moi, légionnaire. Et quand vous savez, je suis originaire, un juif d'Algérie. Quand il y avait le régime de Vichy en France, les juifs algériens avaient perdu la nationalité française. Lorsqu'il y a eu la mobilisation des Algériens pour la libération de la France, alors on a été mobilisé à la Légion, tout simplement. Et alors, après la Légion, on a été versé à la coloniale. Je ne sais pas si c'est que l'infanterie coloniale. Alors, après avoir été légionnaire, j'ai été soldat de marine, l'infanterie coloniale française. Et alors, j'étais dans un régiment où il y avait des Sénégalais et des Indochinois. Et je peux vous garantir que les Arabes, c'est une chose, les Noirs, c'est une autre, et les Jaunes, c'est encore une autre. C'est des manières d'être hommes complètement différentes. Je dois vous dire qu'en récapitulant, il ne faut pas généraliser, à l'échelle individuelle, j'ai eu des amis, et chez les Arabes, et chez les Noirs, et chez les Jaunes. Ce que j'ai préféré, c'est les Sénégalais. C'est vraiment une humanité extraordinairement, la jeunesse de l'humanité. Ils sont restés jeunes. Mais il y avait un mot commun aux trois genres de bataillons. Les bataillons de tirailleurs. Vous savez qu'est-ce qu'un arabe tirailleur ? Il tire ailleurs. Les tirailleurs, marocains d'ailleurs, les Sénégalais. C'était le mot de pagaille. Mais alors, ils avaient trois manières de prononcer le mot de pagaille, mais c'est le même mot. La pagaille. Bon, les Européens étaient là, c'est eux qui encadraient, alors il y a un peu moins de pagaille. Non, pour vous dire qu'il faut bien savoir ça. Il y a des manières d'être homme différentes, et on ne peut pas raisonner, projeter sur une manière d'être homme donnée, les données, les coordonnées d'une autre manière d'être homme. C'est clair. Et ça, c'est la grande erreur des Israéliens au pouvoir aujourd'hui. Ils raisonnent comme si on avait affaire à un conflit entre Belges et Luxembourgeois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est clair. Bon. Enfin, je reviens au sujet. Et ça ne veut pas dire que si c'était des Sfaradim qui étaient au gouvernement, ça irait mieux, ça irait pire. Hein. Parce que les Sfaradim ont 2 000 ans d'esclavage chez les Arabes, et alors quand ils rencontrent les anciens maîtres, ils redeviennent esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez ça aussi. En tout cas, pour revenir.
Donc les Européens aussi redeviennent esclaves. C'est
Transformé
en Sfaradim à ce moment-là.
Pire que ça, pire que ça. Il y a pire qu'un Sfarad, c'est un Européen qui se prend pour un Sfarad. C'est sûr. En tout cas, pour revenir au... Non, les Européens sont naïfs, enfin. Ils sont en train de préparer une grande guerre entre l'islam et l'Occident qu'ils vont perdre. In extremis, ils vont la gagner, mais ils vont la perdre. Je ne sais pas si vous... Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais enfin, c'est les problèmes du jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'Occident est en train d'armer les pays d'islam qui se préparent à faire la guerre contre eux. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie, ne serait-ce que ça. En tout cas, pour revenir au sujet. De quoi je parlais d'ailleurs? J'ai parlé des
images.
Oui. Alors, vous voyez, quel était le sujet général d'où j'ai parlé ce mois en particulier?
L'empêchement d'enfants.
Oui. Ce sont des thèmes d'identité que nous avons dans l'histoire d'Israël. Alors, Sarah, ça tarde avant qu'un enfant traque. Parce que sinon, elle risquerait d'enfanter Ishmaël. C'est clair, ce jeu-là. Abraham a tout de suite un enfant. Donc l'empêchement ne vient pas d'Abraham. Et l'empêchement vient de la matrice. La matrice n'est pas encore prête à donner l'enfant attendu. Alors la précipitation, l'anticipation, l'impatience d'anticipation fait que Abraham, avec Agar, à Ishmaël. Mais retenez les deux mots, Metzachek, Yitzhak. Alors ça, j'explique avant de prendre d'autres exemples. Parce que c'est important de savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'une anecdote où on voit un enfant rire, alors on l'expulse, et alors c'est l'origine d'un conflit de plus de 4000 ans qui aboutit là où il aboutit. C'est que c'est dans la Tosefta, le Midrash a expliqué qu'est-ce que ça veut dire rire au présent. Ça veut dire se satisfaire de l'état du monde comme il est maintenant. Alors que Yitzhak n'aura le droit de rire qu'à l'avenir, lorsque le monde sera tel qu'on aura droit d'en être satisfait. Vous voyez, la perspective qui s'ouvre là, c'est très différent. Alors effectivement, Ishmaël est un fils d'Abraham. Il peut rire parce qu'il sait que le monde a un créateur, parce qu'il sait que le monde a un maître, un mashgiach, une providence. Et le rire n'est possible que lorsque c'est que c'est Dieu qui a créé le monde. En dépit de l'état du monde, il y a un sens puisque c'est Dieu qui l'a créé. Alors on peut rire. Donc Ishmaël est capable de rire devant le Créateur. Il est le fils d'Abraham qui reconnaît qu'il est Créateur. Mais il rit au présent, ça veut dire qu'il est satisfait de l'état du monde comme il est maintenant, avec son bien et son mal. Alors que Yitzhak n'a le droit de rire qu'à l'avenir. Lorsque le monde sera tel qu'on aura le droit de rire et que ça. C'est une Gemara que je vous cite là. Et quel est le verset qui dit ça? Un verset que vous connaissez. J'interroge ceux qui savent lire les psaumes. C'est un verset des psaumes. Qui dit exactement ça? Az, il a fait. Az imale tzrokpin. Alors seulement on aura le droit de rire. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire. Le fils d'Isaac, Isaac, rit, mais il rit d'un rire réprimé. Il s'empêche de rire et que ça, tant que le monde est ce qu'il est, avec son bien et son mal. C'est clair, cela? Non, c'est pour vous indiquer qu'il s'agit dans ces thèmes de choses extrêmement importantes que la Torah nous raconte. Ce sont des thèmes d'identité et ce ne sont pas des anecdotes comme on pourrait croire. Et alors voilà le conflit de deux manières d'être fils d'Abraham. Les deux sont capables de rire. Mais l'un rit au présent, c'est le rire d'un rachat. Il faut être rachat pour être satisfait du monde comme il est. Comme j'ai l'habitude de dire, ça je vous cite toujours la Gemara. Hein. Ne croyez pas que ce que je vous répercute, ça vient de moi. Rien ne vient de moi. Non, je vous dis ça parce qu'on n'a pas le temps de... Si vous voulez, je peux vous donner les références. Mais on n'a pas le temps. Si je vous donne une explication que je n'ai pas apprise, je vous avertis, ça, c'est moi qui explique. En général, ça m'arrive une fois par an. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, c'est qu'il y a des thèmes d'identité propres à l'histoire d'Israël, en particulier celui-là, l'empêchement d'enfanter jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment celui qu'on attendait. Parce que l'approximation est dangereuse, il faut qu'elle s'installe, elle se multiplie, elle est là, il faut en tenir compte, et c'est irréversible. C'est clair ? D'ailleurs, vous verrez comment la Torah indique cela, mais je n'expliquerai pas beaucoup, parce que là, on apprend ça dans la Kabbalah. Il fallait que Sarah arrive à un certain âge pour pouvoir enfanter Yitzhak. 90 ans. Pourquoi 90 ans ? Et à ce moment-là, Abraham a déjà 100 ans. Pourquoi 100 ans ? Bon, je reviens au sujet. Après Sarah, nous voyons la même chose avec Rivka. Après Rivka, on voit la même chose avec Rachel. Après Rachel, on voit la même chose avec Hana, la mère de Shmuel. C'est un thème de l'enseignement de l'histoire d'Israël. Il faut attendre longtemps parfois pour que l'enfant promis naisse. Entre parenthèses, c'est encore un autre sujet. Pourquoi Dieu promet et s'attarde ? Est-ce que Dieu ne peut pas faire que ce qu'il voudrait, que ce qu'il promet se fait tout de suite ? C'est parce que du côté de la créature, il y a des conditions qui manquent. C'est promis, mais on attend que les conditions soient là. Et je crois que nous avons eu un exemple, et nous avons été d'une génération privilégiée, nous avons attendu 2000 ans l'accomplissement d'une promesse, le retour à Jérusalem, le retour en Israël. Je me souviens, en Talmud Torah, quand j'étais enfant, quand on parlait des récits Israël, quelle que soit la ville, Haïfa, Tverian, c'était Jérusalem. On ne disait pas Israël, on disait Jérusalem. Le retour à Jérusalem, on a attendu 2000 ans. Subitement, il arrive. Et pendant 2000 ans, Abraham et Sarah attendaient l'enfant promis. Et quand l'enfant est arrivé, tout le monde s'est mis à rire. Hein ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous raconter un souvenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la nationalisation par Nasser du canal de Suez. Qui se rappelle de ça ? Le rire de Nasser. C'était en plein été, je me rappelle. J'ai ouvert la radio et j'ai entendu ce rire de Nasser. Je me suis dit, ça, c'est le rire d'Ishmaël. Vous voyez de quoi je parle ? Vous l'avez entendu, ce rire ? Non. Alors, je reviens en tout cas aux... ceux qui ont vécu en pays d'Islam connaissent ce que c'est que le rire d'Ishmaël. En tout cas, pour revenir au sujet, nous avons là des thèmes d'identité. Quel était le deuxième thème duquel on était parti ? Voilà. Mais avant d'arriver là... Oui, c'est de ça qu'on parlait. Ça, c'est l'autre question. Exact. Et Rabbi qui dit rien. Mais je vais vous ouvrir une parenthèse que j'ai enseignée ce matin dans un autre groupe du Mahon Meir, mais dont j'ai déjà parlé ici et qui est très importante. À propos précisément de Yitzhak. Vous savez que nous sommes en pour parler avec le Vatican pour peut-être essayer de commencer à signer un premier accord qui on verra où mène. C'est une histoire très difficile. Les tractations ont duré plusieurs années. Je peux vous dire maintenant que c'est fini, j'étais un peu mêlé. Et le Vatican était obligé finalement de reconnaître Israël sous une forme ou sous une autre. C'est son intérêt à lui. C'est pas l'intérêt d'Israël, je dois vous dire. Mais si le Vatican avait reconnu Israël à la fondation de l'État d'Israël, on aurait économisé cette guerre qu'on a eue avec le monde entier. Mais finalement, le Vatican, pris au piège, est obligé de reconnaître, sous une forme ou sous une autre, l'État d'Israël. Ça va se signer jeudi. Si vous avez les câbles, si vous pouvez avoir France 2, je serai interviewé ce jeudi. Là-dessus. Mais je ne sais pas encore.
C'est France 2 de France.
France 2 de France, oui, la
même. C'est
même.
Pas TV5.
Non, pas TV5. France 2. Non, je ne sais pas. Je dois enregistrer demain. Vous téléphonerez à la secrétaire, elle vous dira. Et alors, attendez, qu'est-ce que je dirais ? Que je ne vous dise pas de secret public. Le Vatican est obligé de le signer. En fait, le Vatican a trois problèmes avec Israël. Il a un problème avec le peuple juif et l'histoire juive. Il a un problème avec la religion juive, le judaïsme, et un problème avec l'État d'Israël. C'est trois problèmes différents. et actuellement est obligé de résoudre le problème avec l'État d'Israël comme État. Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que tous les États de la planète reconnaissent Israël l'un après l'autre. Il ne peut pas rester à la fin, le dernier. C'est impensable que l'Église catholique ne reconnaisse pas l'État d'Israël, alors que même l'Azerbaïdjan a reconnu l'État d'Israël. Et d'autre part, deuxième raison, ils ont des intérêts en Israël, parce qu'ils ont occupé le pays pendant des siècles, ils ont des intérêts matériels, dont le Migrash Harutim, par exemple, qui appartient à l'église orthodoxe, mais en fait, c'est encore une église. Et ils ont des intérêts à être présents au moment des négociations sur Jérusalem. Et vraiment, Israël, en tant qu'État, n'a aucun intérêt à ça. Parce que ça enclenche sur les deux autres problèmes. Il faut aussi qu'on discute des rapports de religion à religion et les rapports avec le peuple juif, dont par exemple les questions d'Auschwitz, par exemple. Ça fait partie de l'histoire des Juifs. Et vous savez qu'ils veulent s'annexer, toutes ces choses-là. Enfin bref, c'est très compliqué. Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont pris au piège, ils sont obligés de... Pourquoi je vous ai raconté ça? Je me suis mis à penser à Rome. Non, attendez. Pas... Oui, et de quoi j'ai parlé, Mahamdi? Je ne vous ai pas dit. À propos de quoi j'ai... Non, c'était hier longtemps. À propos de quoi j'ai parlé du Mahamdi? Oui, ça m'échappe. J'ai pensé à trop de choses à la fois, il ne faut jamais faire ça. Mais quoi qu'il en soit, je reviens au sujet général. Il y a des thèmes d'identité qui sont spécifiques à l'histoire d'Israël. Je vous donne un exemple. Ça a été le thème du retard de la naissance de l'enfant promis. Non, ça n'a aucun rapport à ce que je voulais dire, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais la théologie chrétienne en a fait une maquette. Que c'est la naissance à partir d'une vierge. Vous voyez, c'est l'impossibilité de la naissance, mais l'enfant naît quand même. Ils ont poussé une maquette païenne, okay, la vierge a enfanté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, oubliez ça, c'est des histoires à eux. En tout cas, je reviens au sujet. Alors, cet autre exemple, c'est l'entrecroisement des bénédictions. Je suis sur cette question-là. Mais vous voyez, il y a... je vais prendre une manière d'aborder le problème. Il y a, dans les engendrements, un thème qui revient très souvent dans l'histoire des familles de la Bible, c'est l'aîné et le dernier-né. Les termes techniques en français, c'est la primogéniture et l'ultimogéniture. Je ne sais pas ce que je veux dire. Il y a une manière d'être le fils qui consiste à être le fils aîné. Et il y a une manière d'être le fils qui consiste à être le fils dernier, c'est-à-dire le Benjamin. Et d'ailleurs, c'est biblique, puisque Benjamin est le dernier fils de Jacob. C'est de là que ça vient. Et alors, il y a deux identités à qui sont confiés l'héritage de la génération précédente. Or, ça correspond dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, à deux vertus qu'on trouve dans l'identité d'Israël, mais qui sont deux vertus contradictoires. La patience et l'impatience. La patience, c'est lorsqu'on met l'accent sur l'héritage du passé qu'il faut réussir. L'impatience, c'est quand on met l'accent sur l'échec de l'héritage du passé qu'il faut remplacer. Alors, je ne sais pas si vous percevez cela. Dans l'histoire d'Israël, on voit que les deux vertus sont à l'œuvre, mais elles sont contradictoires. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? L'identité juive, c'est une patience infinie. On a traversé l'histoire et une impatience quotidienne. Demain, aujourd'hui. Okay, vous voyez ce que je veux dire ? Quand viendra-t-il ? Tout de suite. Ayom et Bukolot Ishmaou. L'impatience. Et puis ça a traversé les siècles. La patience. Okay. Alors la patience, c'est la vertu du premier-né. Et l'impatience, c'est la vertu du dernier-né. Vous voyez, il y a toujours dans la descendance une réaction de la génération suivante, soit de patience, soit d'impatience. C'est clair ? Okay. Alors, on voit qu'il y a deux forces en œuvre dans l'histoire. Mais, si on donne la bénédiction de la patience à celui qui naturellement est dans la patience, et la bénédiction de l'impatience à celui qui naturellement est dans l'impatience, ça se sépare, ça ne se rejoindra jamais. Alors il y a entrecroisement des bénédictions. On donne au premier-né la bénédiction du dernier-né et au dernier-né la bénédiction du premier. C'est clair ? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un relais des générations, le patriarche entrecroise les mains et donne la bénédiction de l'un à l'autre et la bénédiction de l'autre à l'un. Ça y est, c'est clair. Hein ? De cette sorte, ce qui est chance de unité des vocations. Je peux vous donner une illustration de cela. Il y a, par exemple, dans le problème de la bénédiction d'Isaac, il doit transmettre deux bénédictions à ses fils. La bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Or, on apprend du récit de la Torah que Ésaü avait la vocation matérielle. Donc, il faut que la bénédiction matérielle soit donnée à Jacob. Jacob avait la bénédiction spirituelle, il faudrait que la bénédiction spirituelle soit donnée à Ésaü. Pour qu'il y ait une chance que ça s'unifie. Parce que sinon, ils se séparent irrémédiablement. Ce sont deux vocations humaines tellement différentes qu'elles sont incompatibles. Ça, il faut bien savoir que le caractère surhumain de l'histoire d'Israël, c'est d'espérer l'engendrement d'un type d'homme qui ait les deux vocations à la fois. Or, humainement, c'est impossible. Ça, j'en parle souvent aux élèves de Yeshiva qui viennent me demander conseil. Je vous donne un exemple. Un élève de Yeshiva qui vient qui me dit « J'ai la vocation de la peinture. Mais mon maître m'a dit que si je passe pas 24 heures sur 24 pour étudier le Talmud, je ne serai jamais un bon juif. Mais moi, je veux être peintre. Comment je peux faire ?» Vous avez compris le drame. Bon, je pousse les choses à la limite, mais c'est vrai dans toutes les vocations. La réponse de la halakha est très claire, il faut le savoir. On essaye d'abord la Torah, 5 ans. Si on voit que ça ne marche pas, on ne sent pas la bénédiction, alors on essaye encore 5 ans. Et si on voit que ça ne marche pas, on va faire du commerce et on réussit parce qu'on s'entend devenir intelligent. Non, mais c'est pas une blague. Et on donne la dîme au yeshivot. Et en plus, c'est comme ça que ça marche. Non, mais je reviens. Alors, la réponse que je donne, et ça j'ai appris de mes maîtres, c'est que tu essayes la Torah. Si tu vois que tu peux devenir un grand de la Torah, un grand de la Torah, c'est pas un mâche-guillard de boucherie. C'est pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Le hercher du bagasse, de machin. On a besoin de ça aussi, mais c'est pas de la Torah. Ça, c'est le Shranaou, c'est autre chose. Alors, tu vois que tu peux être un grand de la Torah, reste dans la Torah, on a besoin de toi. Et il y en a un par siècle. Maintenant. Parce que vous croyez qu'on a attendu 4000 ans pour savoir comment il faut manger cachet. Alors tous ces grands Torah qui nous apprennent aujourd'hui comment manger cachet, ils se foutent du monde. Et pendant 4000 ans, comment on a fait? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'appelle Gadol, Gaon. C'est des mâches guéris. Comme ils n'ont rien à faire, ils inventent des dynimes. Mais je ne blague pas. Ils s'ennuient. Alors nous avons des chumrotes. Ça s'appelle Kal Vachomer. Et alors, vous rigolez? C'est dramatique. Hein? Posez-vous la question simple. Et avant, comment on faisait? Hein? Exactement. Alors, on ajoute des livres, des livres, des livres. Tlaï al-Gabetlaï. Vous savez qu'on appelle un faux savant Hamour Nosse Sfarim. Hamour Nosse Sfarim. Un âne chargé de livres. D'ailleurs, en français, il y a une phrase comme ça, podane. c'est grave, parce qu'on est arrivé à ce stade-là. Et puis, c'est comme pour les approximations, il faut que les livres sont écrits, il faut en tenir compte. Alors, on ne s'entend plus. Est-ce que c'est clair, ce que je dis ? Que la Torah, c'est la Torah chez Balpé. Il y a une phrase à la fin du livre des Proverbes. Asot Sfari Menkes. Si vous voulez, je vous donne le verset, c'est dans Tanakh. Asot Sfari Menket, faire des livres sans fin. Ça, c'est le pshat. Faire des livres sans fin, c'est pas ça la chokhma. Okay? C'est des livres sans fin. Okay? C'est pas qui a inventé de dire que nous sommes le peuple du livre. Non, mais ça, je suis très sérieux. Je vais vous dire d'où ça vient. C'est Ahadam qui a inventé je me rappelle l'enseignement du Rafou à ce sujet. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous ne sommes pas un peuple de libraire. Nous sommes le peuple de celui qui a dit ce qu'il a écrit dans le livre. Ça n'a rien à voir. Hein? Moi, c'est un peuple du livre. Hein? Un peuple de libraire. Hein? Mais on est devenu un peuple de libraire. Je ne sais pas, vous savez, le phénomène d'édition, de répétition, de glose, des glosateurs. Et c'est clair ce que je dis, j'espère. Et alors, mais c'est un drame, parce qu'une fois que les livres existent, il faut en tenir compte. Si vous savez le nombre de livres qu'il faudrait mettre à la Gnisa, vous n'avez aucune idée. Lorsque Dieu a parlé aux hommes pour leur donner la Torah, c'est Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Et Dieu a parlé à Moïse pour dire, vous croyez que Dieu a fait un livre pour le donner à Moïse ? Il a parlé. Et quand il s'est aperçu que les hommes risquaient de perdre la mémoire, il leur a dit, alors, mais ça par écrit. Nous avons inversé dans la Torah pour dire, et maintenant que la Torah a été révélée, mais là par écrit pour pas qu'il oublie. Mais la Torah a d'abord été une parole, pas un livre. C'est un problème important que je vous dis là. On a transformé l'identité de la tradition. On a fait des universités, on fait des doctorats sur des thèses, sur un livre. Et on appelle ça la tradition. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que je dis là. Comme si Dieu avait créé une imprimerie. Il a créé un monde. Et bon, je reviens. C'est clair ce que je dis là. Je reviens au sujet. Et... De quoi je parlais ?
Si on a vraiment la vocation d'être pas un Talmudiste.
Non, non, ce que je dis, c'est que pour être un vrai Talmudiste, et là, non, là je suis sérieux, vous savez, je blague jamais, même quand je vous fais rire. Pour être un vrai Talmudiste, il faut 24 heures sur 24. Sinon, on est un amateur. Et pour être un vrai mathématicien, il faut 24 heures sur 24. Sinon, on est un amateur. Alors donc, quand le candidat Bachur Yeshiva vient me demander un conseil, qu'est-ce que je fais ? Alors je lui réponds, ce que dit la Halakha, essaye la Torah 5 ans. Tu vois que tu ne réussis pas vraiment à être un grand, essaye encore 5 ans dans une autre yeshiva. Si tu ne réussis pas, eh bien, tu choisis ta vocation matérielle, temporelle, hein, et puis tu es un bon juif, tu étudies 2 heures par jour, mais ça c'est amateur. Et puis tu pratiques tout ce qu'il faut, mais c'est amateur. Un vrai Talmudham, c'est 24 heures sur 24. Un vrai mathématicien, c'est 24 heures sur 24. C'est clair ce que je dis là. Et je connais des quantités de gens très bien qui ont gâché leur vie parce qu'ils auraient pu être des grands mathématiciens. Et ils sont devenus mashgiach de boucherie après avoir fait un stage dans une yeshiva de Bnei Brak. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Parce que quand on n'a pas dépassé 25 ans, on ne peut plus être un grand mathématicien. Et alors que pour être un grand talmudiste, il faut arriver à 70 ans. Alors entre-temps, eh bien, on est encombré par des magicrimes de boucherie. C'est pourquoi on a tellement de labels de cache-route. Il faut les gagner de leur vie. Bon, allez, je reviens au sujet. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? De la vache enragée cachère. Alors voilà donc le thème du croisement des... Chaque fois qu'il y a une remise en jeu dans une histoire qui va recommencer, alors il faut donner à l'aîné la bénédiction du dernier et au dernier la bénédiction de l'aîné. Parce que sinon, ces deux vocations humaines se séparent. Je vous ai expliqué une expression de la Bible qui revient souvent, que vous connaissez, qui met « Hashamaim ala aret ». C'est cette expression, les cieux au-dessus de la terre. Et alors, il faut bien se rendre compte, tant que les cieux sont au-dessus de la terre, ça se sépare. Les cieux montent et la terre descend. Il faut que les cieux soient en dessous de la terre pour supporter la terre. Je pense à, disons, un peu comme image, mais c'est plus qu'une image. Si, est-ce que c'est clair ce jour-là ? Non, c'est pas clair ? Si on accepte que les cieux soient sur la terre, on est perdu. Parce que les cieux montent de haut en haut et la terre tombe de bas en bas. Il faut que les cieux soient en dessous de la terre. Vous ne voyez pas l'image ? Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est, grâce à Dieu. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, un poème de Ibn Ezra, de Abraham Ibn Ezra, qui me revient en mémoire. Dans le Sfaradi, on le chante le jour de Kippour. Je vais vous expliquer la phrase. Je l'ai étudié avec le Rav Kook, cette phrase-là. Mais un deuxième exemple, je voudrais le formuler à voix haute pour ne pas l'oublier, sur ce thème-là. Bon, ça me reviendra peut-être. En tout cas, cette phrase de Ibn Ezra qui dit comme ça: Eshtahave apaim artsa kien le mata mimena. Le pshat, et c'est très beau d'ailleurs comme pshat, les Eshtahave apaim artsa. Je me prosternerai face contre terre kien le mata mimena, parce qu'il n'y a rien de plus bas qu'elle, que la terre. C'est très beau. C'est-à-dire, s'il y avait plus bas que la terre, je me prosternerais encore plus bas que la terre. La poésie du Moyen-Âge est très très belle. Et alors ça, au point de vue du pshat, on comprend ce que ça veut dire. C'est un élan de piété poétique. Eshtahave apai martza kien le mata mimena. Mais alpi a kabbalah, ça veut dire tout à fait autre chose. Vous allez entendre les mots en hébreu et après traduire. Eshtahave apai martza ki en le mata mimena. Pourquoi je me prosterne à terre? Et d'abord, il faut s'étonner. Quand on est devant Dieu, on se prosterne à terre. Qu'est-ce qu'on adore, la terre? Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner à terre quand on est devant Dieu? Alors, la phrase signifie ceci: je me prosterne face vers la terre, car le haïn est plus bas que la terre. Qui haïn, les matamènes. Le haïn, le ensof, est plus bas que la terre. C'est clair? Quand on se prosterne vers la terre, c'est qu'on se prosterne devant Dieu qui supporte le monde qu'il a créé. Vous voyez l'idée? C'est clair. Bon, alors vous rattachez ça à notre thème. Lorsqu'il y a deux vocations, deux forces, deux tendances différentes, il faut d'abord savoir qu'elles sont incompatibles. Et l'idéal, c'est d'arriver à les unifier. Mais il faut savoir que c'est surhumain. Israël est au-delà de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont incompatibles. Jacob, c'est la vocation spirituelle. Ésaü, c'est la vocation matérielle. Tant que Jacob n'est que Jacob, tant qu'Ésaü n'est qu'Ésaü, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait un Israël. C'est-à-dire un Jacob qui ait aussi la capacité de la vocation matérielle. Alors il s'appelle Israël. C'est clair? Vous voyez pourquoi? Et ça, on va s'approcher de notre sujet. Il y a une... C'est ce dont on a parlé la semaine dernière, vers la fin.